femme.
20 décembre 1977, deuxième jour du séminaire consacré aux engendrements de Joseph et de Judas, chapitre 38 de la Genèse.
Si vous me permettez une question, qui n'était pas là hier soir ? Bien, en tout cas, je prendrai quelques minutes pour vous remettre dans le courant du sujet. Et puis, aujourd'hui, nous essaierons de lire un certain nombre de textes de façon plus approfondie concernant la partie des engendrements propres à Yehuda, à la lignée de Yehuda. Demain, donc, mercredi soir, nous lirons, surtout dans le Chumash général, on ne nous a pas fait de photocopie pour cette deuxième partie, et nous lirons le récit concernant les engendrements de Joseph. Et jeudi soir, dans la récapitulation générale, nous pouvons reprendre l'ensemble du thème. Et je vais prendre quelques minutes maintenant pour vous rappeler où nous sommes arrivés dans le déroulement des analyses. Ensuite, vous aurez la parole s'il est nécessaire de préciser telle ou telle connaissance qui n'aurait pas été suffisamment éclairée. Et puis nous commencerons tout de suite l'étude des textes. Voici dans les ensembles de chapitres qui sont dans la paracha de Vayeshev, c'est-à-dire chapitre 37, chapitre 38, chapitre 39, puis 40, mais surtout les trois premiers chapitres, 37, 38 et 39, se mettent en place, d'une certaine manière, un problème de parallélisme et de rivalité entre deux lignées particulières des enfants de Jacob, qui, dans l'ensemble, sont 12, qui sont 13, mais parmi ces l'ensemble des enfants de Jacob, à travers deux lignées particulières, Yehuda et Yosef, l'histoire des tolados, c'est-à-dire des engendrements dans le sens total du terme, pas seulement de faire souche, pas seulement de se multiplier ou de se démultiplier, mais l'effort de mutation d'identité qui est en cours d'engendrement à travers l'histoire humaine, à travers la lignée Israël, est repris. Et nous avons approfondi plus particulièrement hier deux points précis. Pourquoi était-il nécessaire que cet effort des tolados, des engendrements, reprenne après les enfants de Jacob? C'est l'étape messianique. Et d'emblée, nous sommes avertis par le Midrash que l'identité Israël est là tout entière, pas encore complètement tout entière tant qu'il n'y a pas 13 tribus, mais j'y ai fait allusion déjà hier, la tribu de Joseph, qui est la 11e, puisque Binyamin est le 12e, la tribu de Joseph sera divisée en deux. L'identité de Joseph va s'occulter, va se cacher derrière celle de Ephraïm et Ménaché, qui sont ses deux enfants, et en fin de compte, il y aura 13 tribus. Mais au niveau des Shevatim, le terme que nous employons pour dire les enfants de Jacob, les fondateurs des tribus, Shevet signifiant la tribu en hébreu, au niveau des Shevatim, l'identité Israël est constituée. Et commence une histoire qui est l'histoire de Bnei Israël. Nous sommes habitués à savoir que l'effort des Tolados, des engendrements d'identité, continue, mais il s'agissait déjà de découvrir ce premier étonnement. Pourquoi cela continue alors que les 12, qui sont 13 tribus d'Israël, sont déjà là, que les 13 dimensions de l'identité d'Israël sont déjà là? Je vous fais une toute petite parenthèse, double d'ailleurs. Lorsque vous reprenez les récits des généalogies des différentes descendances d'Abraham, la descendance d'Ishmaël pour elle-même, ou la descendance de Esav à travers Yitzhak, vous voyez que c'est tout de suite, immédiatement, qu'ils ont 12 enfants, 12 tribus aussi. Vous avez dû être frappé par cela. Ishmaël, à la fin de Chaye Sarah, enfante 12 dimensions de l'identité Ishmaël. Esav, enfante 12 dimensions de l'identité Esav. Tout de suite. Alors qu'il y a un très long effort des Tolados qui continue à travers les lignées d'Israël à proprement parler. C'est ici une remarque assez importante. Tout se passe comme si, et sans l'évaluer au niveau du jugement de valeur de l'identité, et tout se passe comme si Ishmaël a son achèvement immédiatement, Esav a son achèvement immédiatement, très vite, sans aucun grand effort. Il y a identification de cette manière d'être homme. Et ensuite, c'est une histoire de multiplication. Ça entre dans l'histoire des civilisations. Tandis que l'effort de l'engendrement messianique va continuer dans la lignée de Jacob devenu Israël. C'était donc cette première remarque qu'il y avait à mettre en évidence. Et nous savons déjà que cet effort ne se perpétue pas à travers les 12 tribus d'Israël, mais en particulier deux d'entre elles, qui sont les deux polarités. Et nous aurons à reprendre ces thèmes de définition, surtout dans la dernière soirée. Yehuda d'un côté, Yosef de l'autre. Et une deuxième remarque, si vous voulez, de la nécessité de ces 12 dimensions qui sont 13. Mais je pense que pour la première remarque qui est importante pour elle-même, c'est suffisamment clair. Les Toledot d'Ishmaël sont immédiatement achevés. Et puis, son histoire commence, mais c'est l'histoire d'une civilisation et non plus d'un engendrement messianique. Les Toledot de Esav sont immédiatement achevés. L'effort continue dans la descendance de Jacob. Et à travers deux dimensions de messianité complémentaires, Joseph et Judas. Et il y a donc une analogie formelle entre cette dispersion des dimensions de l'identité de chacun de ces types d'hommes, de ces manières d'être hommes. Pourquoi 12 qui sont 13? Et je vais certainement, certains d'entre vous, étudier ces thèmes d'autre part, probablement. Je vais simplement le rappeler en parenthèse très, très rapide. Peut-être je vais profiter de me servir du tableau d'ailleurs, s'il y a un... Très bien. J'espère que vous arriverez à m'entendre quand même. Et ça se rattache en général au fait qu'il y a une union. Il y a une unité à l'envers. Et la valeur numérique du moins est tout simplement 13. Et toute la dialectique, la tension de la difficulté, le sport, c'est qu'il y a vraiment unité de l'ensemble. Et cette tension est entre, pardon, c'est là, entre Had, qui signifie 1, mais qui a comme valeur numérique 12, Had. Et vous le trouvez en araméen, Had signifie 12, et Echad, qui signifie 13, c'est l'unité en hébreu, au niveau du Lashon HaKodesh. Tant qu'il n'y en a que 12, l'unité n'est pas encore là. Et il est bien évident que si Joseph est expulsé, c'était le chapitre 37, le jugement de Joseph par ses frères. Nous reviendrons sur ce point. Si Joseph est expulsé, alors il n'y a plus que Had, et le Echad n'est pas là. En particulier, vous trouverez ce texte dans le dialogue entre Judas et Joseph, lorsque Judas explique qui ils sont à la fin de la paracha de Mikkel et au début de la paracha de Vaïkash. En particulier, dans ce verset, « Bene Ish Echad Anachni » Nous sommes les enfants d'un Ish Echad. Et ensuite, tout de suite, le texte enchaîne, « Shnem Asar » 12, « Shnem Asar Anachni » C'est cette tension entre Echad, qui doit être 13, et puis, en réalité, historiquement, nous ne sommes jamais que 12. Et tant que le 13e n'est pas là, l'unité de l'ensemble n'est pas non plus là. Il y a ici une remarque très importante. En principe, ce 13e qui fait que l'ensemble est un peut être n'importe lequel des 13. Mais nous voyons que ça se polarise très exactement entre d'une part Yosef et d'autre part Yehuda. Mais nous retrouvons ces versets. Yehuda est descendu de ses frères. Donc, il n'y en a plus que 12. De notre côté, Joseph est descendu en Égypte. Donc, il n'y en a plus que 12. Chaque fois que 1 est sorti du compte, il en reste 12 en principe dans l'ensemble qui reste, mais l'unité manque. Alors il y a une allusion dans un des versets où à un certain moment vous voyez que le mot de Anachnu est écrit sans la lèvre et il est lu Nachnu. Anachnu veut dire nous sommes. Et dans un de ces versets, si vous voulez, je vous donnerai immédiatement la référence, le mot est écrit sans la lèvre. Nous sommes 12. Veha echa venenu et le 1 manque. Et ceci, il y a une allusion dans la littéralité même du texte par le fait que le Aleph disparaît dans le texte du mot Anach. Parce que le Aleph manque, alors nous ne sommes plus que 12, donc l'unité de l'enfant manque. Eh bien, il y a une indication qui a été donnée que, en fin de compte, l'objectif de cette Oladot, c'est de construire l'identité Adam. Dans toutes les grandes lignées, à partir du premier homme, lorsque l'effort des engendrements est arrêté et n'aboutit pas à rejoindre le projet du Créateur, le Tselem Elohim, alors c'est l'expression « Ha-Adam » qui apparaît. L'homme est appelé, tout homme, toute manière d'être homme, est appelé dans le texte biblique « Ha-Adam ». Mais vous voyez bien la difficulté qu'il y a ici. « Ha-Adam », l'article, donne une dimension impersonnelle à l'identité humaine. L'homme, avec un article. Tandis que le nom propre, Adam, va être réservé aux lignées où le Tselem Elohim, c'est-à-dire le projet du Créateur, est de plus en plus rejoint. Donc, si vous voulez, une sorte de grand principe de sélection d'identité, les lignées humaines qui arrivent dans une impasse du point de vue de l'engendrement messianique et qui ont leur propre histoire, l'histoire d'une civilisation qui se développe et où la dimension de la bénédiction est surtout le nombre. Il y a dans la bénédiction donnée au premier homme, Pérou Rebou, il y a deux dimensions. La dimension du nom Rebou est donnée, est gardée, est confirmée au Ha-Adam, aux civilisations humaines, qui ont mené leur toladot jusqu'à un certain point, mais se sont arrêtées. Comme par exemple Ishmaël, immédiatement les 12 tribus, les 12 manières d'être homme et sa civilisation, Esav, etc. Alors, ça entre dans le clan de Ha-Adam. Le terme de Adam continuera à être en cours d'engendrement, en cours de gestation, puisque du Ha-Adam doit procéder le Ben-Adam, qui est donc l'objectif messianique ultime des engendrements. Est-ce que c'est suffisamment clair? Ceci vous éclairera l'enseignement du Zohar, qui est repris par la Gemara, de Rabbi Shimon Bar Yochai, Atem Kruim Adam. Atem Kruim Adam et pas Ha-Adam. Vous voyez là. La différence, je ne traduis pas parce que ça ouvrirait une parenthèse de trop. Voilà où je voulais en venir. C'est que la valeur numérique du mot Adam est encore une fois qui désigne l'identité humaine, mais à l'indice de la personne, du personnel. Ha-Adam, introduisant déjà une dimension impersonnelle. Et la valeur numérique du mot Adam est de 45. Vous voyez ? 40, 44, 45, 45 fois 12, ça doit faire 540, plus 1, ça fait 541, qui est la valeur numérique du mot Israël. C'est-à-dire qu'il y a 12 dimensions d'identité Adam qui déploient l'unité du mot Echad, et puis ce qui est en question pour l'achèvement de cette identité, c'est précisément l'unité de l'ensemble. Et l'importance donnée à la 13e tribu, chaque fois prise comme centre d'unité de l'ensemble. C'est-à-dire 12 manières d'être homme, comme 12 dimensions intérieures de l'identité d'Israël, mais leur unité fait que Israël apparaît. Voilà donc ce qui était très schématiquement rappelé, la première question que nous avons analysée hier, et puis deuxièmement, la difficulté de cette perpétuation des identités, de l'engendrement dans l'identité Yehuda comme dans l'identité Yosef, dans tous les cas nous nous trouvons devant une impasse a priori, avec qui contracter mariage, de telle sorte que cet engendrement, cette fois non plus pour engendrer Israël, mais pour engendrer la dimension messianique d'Israël, pourra continuer. Et nous avons surtout étudié dans la lignée de Yehuda le fait que la première rencontre est avec l'identité cananéenne. Voilà où nous étions à la fin de l'étude hier. Eh bien, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, nous pouvons aborder le texte, mais si vous avez quand même des questions sur ce qui s'est passé hier, il vaut mieux qu'on les étudie tout de suite. Oui ? C'est parce que dans la lignée de Yehuda, il y a une première étape qui est atteinte, et c'est David lui-même. J'expliquerai ça très rapidement. Et puis je compléterai en disant que ce n'est pas par hasard que selon le Midrash, selon le Zohar, David est considéré lui-même comme ayant été Machiav ben Yosef, bien qu'il descende de la tribu de Yehuda. Je vous dis ça tout de suite pour prévenir une autre question qui est inévitable, c'est que tous les descendants de Joseph se trouvent en principe, et surtout à travers la tribu principale d'Ephraïm, parmi les 10 tribus perdues, comment se fait-il que les Juifs, qui sont des descendants du royaume de Juda, c'est-à-dire de la tribu de Juda, Benjamin et la moitié de la tribu de Manassé, attendent de nouveau à Machir Ben Yosef? D'où sortirait-il? Est-ce que c'est clair? C'est aussi une question correcte. Voici, j'aurai une parenthèse que nous avons peut-être étudiée il y a 2 ou 3 ans, mais enfin, je pense que les murs n'ont pas forcément une mémoire aussi ancienne. Alors, voici de quoi il s'agit. Il y a, dans la définition de l'identité messianique, telle que le judaïsme la conçoit, il y a plusieurs fonctions. En particulier, il y a une fonction, il y a la fonction sacerdotale, il y a la fonction royale, il y a la fonction rédemptrice. Bien entendu, la quatrième étant la fonction prophétique. Les théologiens ont l'habitude d'employer en français le terme de fonction rédemptrice. C'est-à-dire, en hébreu, ce serait kapara. Kapara, c'est-à-dire l'expiation, la rédemption de la faute. Mais c'est surtout, à mon sens, dans la théologie chrétienne, que la fonction messianique a en gros plan, essentiellement, cette fonction rédemptrice. Si j'ose dire, en schématisant les données de la question, à quoi doit servir le Messie? À faire pardonner les fautes, à effacer la faute. Quelle faute? La faute du premier homme, qui est la cause de la chute de l'humanité. Jusque-là, j'ai décrit la doctrine chrétienne. Mais ce n'est pas le terme de kapara qui est expiation, rédemption, dans le sens théologique du mot en français, qui est employé dans le vocabulaire traditionnel juif. C'est le terme de tikkun, les taken. Et, bien entendu, il y a là 2 perspectives très différentes. On pourrait dire, en schématisant un peu le problème, que l'intuition fondamentale de l'exigence de la messianité, de l'identité messianique, comme dimension du salut de l'humanité, est assez commune aux 2 théologies. Mais il y a un accent qui est complètement différent. Dans la tradition juive, l'accent est sur le tikkun, et dans la tradition chrétienne, l'accent est plutôt sur la kapara. Je m'explique en français. Il y a un état de désordre du monde depuis l'origine. Le monde, l'état premier du monde est l'état de chaos, et toute l'histoire est l'organisation de ce chaos. L'organisation de ce chaos s'appelle le tikkun, la mise au point du monde, la restauration d'un ordre brisé. Mais l'ordre en question n'a pas été brisé par la faute. Il est originel, le désordre est originel. La brisure de l'ordre, si vous voulez, est originelle, est a priori de la faute. C'est l'état du monde au commencement de son histoire. Rappelez-vous les premiers versets du récit, et la terre était chaos, et tout l'effort de l'histoire, d'abord cette importante préface des 6 jours du commencement, où Dieu seul est le sujet de cette histoire, et depuis l'apparition de l'homme, l'histoire, et tout coup, les tolados, c'est un effort de mise au point, de restauration d'un ordre qui a été brisé à l'origine par l'acte de création et non pas par la faute du premier homme. C'est le reste du chaos qu'il faut finir, les taken, en hébreu, de mettre au point, de restaurer. Pendant ce travail, ce métier d'homme qui consiste à les taken et à olam, à mettre au point l'état du monde, à achever l'organisation du chaos, il y a des fautes qui sont faites. Et qui sont des fautes de métier d'homme. Bien entendu, l'intuition fondamentale de l'enseignement biblique, c'est que le critère de faute est un critère avant tout d'ordre moral. Mais je pense qu'il faut entendre cela de cette manière. La avoda, le travail que nous avons à faire, c'est notre métier d'homme, à l'échelle métaphysique du terme. Et puis, dans tout métier, il arrive qu'il y ait des ratés. Il y a donc des fautes de métier. Et puisqu'il y a des fautes, alors reprenons maintenant le terme habituel dans son sens moral, éthique. Puisqu'il y a des fautes, il faut donc les expier. Mais l'essentiel, l'accent n'est pas mis sur l'expiation de la faute. L'accent est mis sur le tikkun du monde. Ce métier du tikkun entraîne des risques d'erreur, il faut donc les réparer. Mais il y a donc les 2 dimensions. Mais dans la théologie juive, la dimension du tikkun est beaucoup plus importante que celle de la kapara. Je vous citerai très rapidement un enseignement du prophète Jérémie. À ce sujet. Il me semble qu'il s'agit du chapitre 7 du prophète Jérémie, mais vous vérifierez vous-même. Je n'ai pas exactement la référence en tête ce soir. Lorsque le prophète Jérémie dit ceci, « Lorsque j'ai parlé à vos pères au moment de la sortie d'Égypte, je ne leur ai pas parlé au sujet des sacrifices. » Vous connaissez ce thème, d'ailleurs qui fait l'objet d'une des querelles et d'une des controverses qui ont duré le plus longtemps entre nos 2 théologies. Puisque la théologie chrétienne a pour base que le culte des sacrifices doit être caduque. Et en réalité, voilà ce que veut dire mais continue le prophète, qui im lishmoar bekoli. Mais ce que je leur ai demandé, c'est d'écouter ma voix, d'accomplir ma loi. Je schématise donc cet enseignement de Jérémie. Lorsque j'ai parlé à vos pères au temps de la sortie d'Égypte, je ne leur ai pas demandé de m'offrir des sacrifices, mais d'écouter ma voix. Voici quel est le raisonnement de Jérémie en réalité. Et vous savez d'ailleurs qu'il faisait partie d'une famille de Kohanim, c'est-à-dire une famille de prêtres. Et il leur dit ceci: je ne vous ai pas demandé de faire des fautes pour avoir à faire des sacrifices de réparation, je vous ai demandé d'écouter ma voix. Mais si vous faites des fautes, il faut les expier. Est-ce que c'est clair? Voici où est l'accent de l'exhortation du prophète. L'essentiel de ce que réclame la révélation n'est pas d'avoir à offrir des sacrifices. Justement, il est d'avoir à éviter d'offrir des sacrifices. Parce que le sacrifice, c'est la réparation de la faute. Donc l'intention du Créateur, ce n'est pas qu'il y ait des fautes pour qu'il puisse y avoir un sacrifice. C'est qu'il n'y ait pas de faute. Maintenant, s'il y a des fautes, il faut un sacrifice. Est-ce que c'est bien clair? Et là, nous aurons une inversion totale de la position du problème. C'est-à-dire, on n'a pas créé un monde pour qu'il y ait un culte, on a créé un monde pour que l'histoire du monde aboutisse à la réalisation du projet du Créateur. Une certaine identité en vue de laquelle le monde a été créé. Et la définition de la capacité prophétique, c'est le pressentiment de la nature de ce projet du Créateur. C'est pour cela qu'un monde a été créé, pour que l'histoire du monde réussisse. Maintenant, dans cette histoire du monde, il est nécessaire qu'il y ait un culte pour réparer les fautes qui sont faites entre-temps. Et la fonction du culte est très importante, mais ce n'est pas pour qu'il y ait un culte que le monde a été créé. Il est possible d'ailleurs que le malentendu vienne de ce que l'hébreu ancien a le même terme pour dire ces deux conduites humaines, le métier d'homme et le culte qui répare les fautes éventuelles. C'est le terme de avoda. La avoda, c'est le travail que l'homme doit accomplir pour que l'histoire du monde réussisse. Et puis, la avoda, c'est aussi le culte des sacrifices de réparation lorsque des fautes sont faites. Mais, en tout cas, je reviens à la définition du point de départ de la question. C'est que dans les deux théologies, il y a, bien évidemment, à la fonction messianique s'attache une fonction rédemptrice. Mais malgré tout, il fallait d'abord corriger, et que dans tous les cas, elle est très mineure dans l'optique de la tradition juive, bien que vous ayez des écoles, des chitotes, des courants qui donnent une importance beaucoup plus grande que je ne le dis à cette fonction rédemptrice, mais malgré tout, c'est à l'intérieur de la même vision traditionnelle juive où la fonction de tikkun, de réparation, est plus importante. Je l'éclairerai de la manière suivante, mais voilà donc ce que je voulais dire. Il y a analogie dans l'existence d'une fonction rédemptrice de la messianité, mais elle n'est pas aussi décisive pour la conception juive que pour la conception chrétienne, chez qui, en fin de compte, elle envahit tout, et il n'y a plus que cela. À quoi sert le Messie, à la limite, à quoi sert le Messie chrétien à effacer la faute du premier homme? J'ai beaucoup schématisé, mais l'essentiel est là. Et je vous citerai une référence traditionnelle qui se trouve souvent dans le Midrash, tant dans le Midrash Rabbah que dans le Midrash Tanhuma, que la même Torah a été entendue par Moïse et par Aaron. Et Moïse étant le maître d'Israël pour le tikkun, dans le sens que nous avons vu tout à l'heure, la restauration du monde, l'achèvement de l'histoire, Aaron étant le maître d'Israël pour la kapara, pour l'expiation des fautes éventuelles. Et les textes insistent beaucoup. C'est exactement la même Torah que Moïse et Aaron ont entendue et ont reçue. Et pourtant, dans l'attitude de l'acceptation de cette Torah de la part d'Israël, eh bien, cette Torah n'est pas nommée la Torah de Aaron, elle est nommée la Torah de Moïse. C'est-à-dire, l'accent est mis sur le fait que c'est à travers Moïse que nous avons reçu cette Torah, beaucoup plus qu'à travers Aaron en hébreu. Est-ce que c'est bien clair? Vous voyez comment cette référence éclaire notre problème. Or, ceci dit, le récit biblique nous montre qu'il y a deux fautes dont il faut assurer la restauration et l'expiation. D'abord, la faute du premier homme. La faute du premier homme, c'est par rapport au Créateur. Et on n'entrera pas ce soir dans le détail du récit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et de quoi s'agissait-il, et qui était le serpent, etc. Mais il est bien clair que ce qui apparaît de ce récit, c'est que l'essentiel de la foi du premier homme, c'est d'avoir voulu substituer sa propre volonté, ses propres critères de décision à la loi du Créateur. La faute du premier homme est une faute de désobéissance vis-à-vis du Créateur, elle est une faute vis-à-vis de Dieu. Et d'après la tradition juive, dans le principe, au niveau collectif de l'histoire du monde, et cette faute du premier homme a déjà trouvé sa rédemption avec le roi David lui-même. En ce sens que c'est la première fois avec le roi David que, et c'est pourquoi c'est avec lui que l'alliance ultime a été contractée entre le Créateur et l'homme, après l'alliance avec l'univers lui-même, avec tout ce qui est vivant, avec le premier homme, avec Noah, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Pinchas, l'alliance de la prêtrise, l'alliance avec David. Et c'est la première fois avec David que de nouveau la souveraineté du Créateur est reçue par une société humaine. C'est-à-dire non seulement l'identité, mais l'œuvre du roi David dans l'histoire du monde à travers l'histoire d'Israël, c'est d'avoir mis terme à la faute du premier homme à l'échelle du principe, à l'échelle collective. C'est-à-dire, cette faute du premier homme, que les chrétiens appellent le péché originel, selon la tradition juive, a déjà trouvé sa rédemption avec le roi David. Et c'est pourquoi le Mashiach ultime qu'Israël attend, c'est plus le Mashiach de la rédemption de la faute du premier homme, c'est celui de la rédemption de la faute du deuxième homme, c'est-à-dire la faute de Caïn, qui est par rapport à Abel, et qui est la faute de l'homme vis-à-vis de son prochain. Et c'est la raison pour laquelle le premier nom, le premier titre du premier Ben David, c'est Shlomo. Le roi Salomon est le premier Ben David. Et c'est son titre. Shlomo Ben David, Melech Israël. Il inaugure la lignée du Ben David. Donc il y a là, indépendamment, si vous voulez, du nom de personne, la désignation d'une fonction. David, en tant que Mashiach, achève l'histoire du Tikkun et de la Kapara à l'échelle collective de la faute du premier homme, alors que le Ben David doit achever et assurer le Tikkun et la Kapara de la faute du deuxième homme, c'est-à-dire Caïn par rapport à Abel. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que la théologie chrétienne a mis officiellement l'accent sur le commandement d'amour du prochain dans sa perspective messianique propre, mais tout se passe comme si elle reste polarisée théologiquement sur la faute du premier homme, alors que la tension messianique juive est déjà au-delà. D'une certaine manière, si vous voulez, la conscience messianique chrétienne est encore dans une préhistoire de la conscience messianique juive, en ce sens qu'elle est encore antérieure à la restauration accomplie par le roi David. D'où d'ailleurs la très grande importance des psaumes dans la liturgie biblique, les psaumes précisément du roi David. À partir de David, d'une certaine manière, le Créateur est reconnu comme le roi des hommes. C'est là qu'apparaît l'expression « Melech Malchei Hamlachim », que Dieu est reconnu comme le véritable souverain de la société humaine. Cela commence à David. Il ne s'agit pas du tout des monarchies de droit divin, où le roi est roi au nom de Dieu, mais en réalité c'est le roi qui est roi. Lorsque David est roi, c'est Dieu qui est roi. C'est très différent. C'est-à-dire il restaure la Torah en tant que volonté du Créateur, comme constitution souveraine d'une société humaine. Il achève l'œuvre des patriarches et de Moïse. Voilà donc pourquoi le Mashiach attendu sera appelé Ben David, c'est-à-dire celui qui est le restaurateur de l'étape après l'étape de David. David étant une charnière très importante dans l'histoire messianique. Je reprends le crayon, tout simplement. Pour vous rappeler ce qui est connu. Bien, est-ce qu'il y a une autre question? Ce qui nous préoccupera dans les définitions que nous aurons surtout jeudi soir, c'est la différence de fonction entre le Mashiach Ben Yosef et le Mashiach Ben David. Mais je ne voudrais pas déjà commencer sur cet aspect du sujet, nous avons un long programme avant quand même. Oui. Plus fort. Je précise. Le premier homme, c'est Adam, à la première génération. Il y a une seule identité, Adam. Le problème moral ne se pose pas encore au niveau de la génération du premier homme parce qu'il n'y a pas altérité, il n'y a pas plusieurs sujets. Et l'homme est un seul exemplaire, si j'ose dire. Il y a un problème spirituel qui se pose déjà parce qu'il y a homme et femme dans la même identité, Adam. Mais c'est un problème moral, social d'ailleurs déjà, c'est un problème de relation intériorisé. C'est, si vous voulez, ce que les modernes commencent un peu à découvrir ou à redécouvrir, c'est le problème de la relation à autrui, l'autrui étant la femme pour l'homme et l'homme pour la femme. Nous étions habitués dans la culture occidentale jusqu'au dernier siècle que le problème de la relation à autrui était posé en termes sociaux. Un homme avec un autre homme, moi et l'étranger. Mais il y a un premier niveau du problème de la relation à autrui à l'intérieur de l'identité humaine elle-même. C'est pas uniquement le problème sexuel, c'est déjà le problème de l'altérité, l'autre que l'homme étant la femme et l'autre que la femme étant l'homme. Ça, c'est la première génération. À la deuxième génération, il y a déjà deux sujets, Caïn et Abel. Alors, la faute de Adam est la faute par rapport à Dieu, désobéissance par rapport à la volonté morale. Et je décris cela très simplement. Donc, le minimum commun de l'analyse de toute faute est d'abord la faute du premier homme. Et c'est peut-être en ce sens-là que nous voulons dire que la faute d'Adam Harishon, du premier homme, était une faute originelle. C'est la faute de l'origine de toute faute, si une faute est commise. Elle consiste d'abord à substituer sa volonté propre à la volonté du Créateur. C'est-à-dire, dans toute faute, au fond de toute faute, il y a d'abord la faute du premier homme. Mais c'est dans un tout autre sens que celui qui dérive de la théologie chrétienne, où la faute qui a été faite à l'origine pèse comme une fatalité sur toute la suite de l'histoire. Ceci est refusé par la tradition juive. En tout cas, du point de vue de la responsabilité et des personnes individuelles. Du point de vue du principe de la relation de la responsabilité collective et de la responsabilité individuelle. Que cette faute de l'origine ait eu des conséquences qui pèsent encore sur l'histoire, ces conséquences sont perçues dans les événements de l'histoire, mais non pas dans l'identité de l'homme. Là, je voudrais être bien clair. Là, il y a une différence théomique, comme on dit en français, théome, abyssale. Il n'y a aucun pont possible entre la théologie chrétienne et la théologie juive sur ce point. Pour la théologie chrétienne, dès la faute du premier homme, la nature humaine est déchue. Tandis que pour la tradition juive, la faute du premier homme ne touche pas la responsabilité spécifique, personnel de chaque personne, de chaque âme. Chaque âme est neuve. Mais il y a des conséquences de cette faute dans l'histoire. Mais cela ne touche pas l'hérédité morale. Là, il y a une différence absolue. Tandis qu'à la deuxième génération, la faute, c'est le meurtre de Abel par Caïn. Et là, la faute est au niveau du problème moral et non plus du problème religieux, entendu dans le premier sens, relation à Dieu. Alors tout se passe comme si la conscience chrétienne et toute sa ferveur messianique est pratiquement polarisée sur la faute du premier homme, encore. Alors que pour la conscience juive, traditionnelle, orthodoxe, c'est cela le mérite du roi David. La faute du premier homme a trouvé son achèvement à l'échelle collective de l'humanité. À l'échelle individuelle, n'importe qui peut la refaire. Mais il n'y a plus, si vous voulez, de tikkun à faire à cette échelle-là, à l'échelle collective de l'histoire du monde. David a de nouveau rendu le Créateur souverain sur terre. Est-ce que c'est bien clair? Il y a une faute qui n'a pas encore trouvé le principe de sa rédemption, c'est la guerre, c'est la faute vis-à-vis d'autrui. Depuis Caïn et Abel, l'histoire du monde est sempiternellement le même récit, Caïn tue Abel. Et le Messie attendu des Juifs, c'est celui qui s'appelle Ben David, c'est celui qui mettra fin à cet état de choses. C'est celui qui instaure la paix. Vous avez compris la différence, hein? Et d'où l'importance de cette catégorie, le Ben David. Le premier nom du Ben David, c'est Shlomo. C'est pas par hasard. Bien. Oui. Bon. Oui, et voilà. Dans le principe d'Abraham, vous avez entendu la question? Non, la question est ainsi, c'est qu'il reste encore une difficulté à comprendre. comment David a réalisé le tikkun, la restauration de la foi du premier homme. Et en fait, dans le principe, le premier moment, c'est Abraham. Dès que Abraham reconnaît qu'il a un créateur, déjà, l'humanité a de nouveau reconnu la souveraineté du créateur, et donc, dans le principe, la faute du premier homme est évacuée. En tout cas, elle est évacuée d'Abraham. Mais il faut attendre David, et une étape importante, c'est Moïse, il faut attendre David pour que la société d'Israël, comme société, accepte la loi du créateur comme constitution de sa propre société. C'est là, si vous voulez, l'événement historique irréversible qui fait que la Torah est souveraine en Israël. Jusque-là, la société d'Israël, à partir d'Abraham, et surtout à partir de Moïse comme médiateur de la révélation de la loi, se prépare, est en apprentissage du temps de David. Est-ce que c'est clair? Mais c'est David qui a réalisé cela. À partir de David, il y a identification entre trois dimensions qui ensemble font Israël, et je vous montrerai rapidement au tableau tout à l'heure. Ceci, c'est un enseignement du Ben Ishraï que je vous citerai et que vous trouverez dans la paracha de Vaishlach, dans le Ben Ishraï. Ben Ishraï dit ceci: pour que Israël apparaisse, il faut trois dimensions d'identité. D'abord le peuple. Ce peuple n'est pas n'importe quel peuple, avant même de recevoir la Torah. Ce peuple, c'est le peuple de Jacob. C'est Jacob qui va devenir Israël. Mais pour que Jacob devienne Israël et son nom sera changé, il faut deux autres dimensions. D'abord Moïse, qui apporte la loi, et enfin David, qui constitue la nation. La nation, c'est-à-dire le peuple acceptant cette loi. Et le Ben Ishraï le montre par une gamatria très simple. Pas la peine de la mettre au tableau, vous la montrez vous-même. Yaakov a comme valeur numérique 182, Moshe 345, David 8 et 6, 14, ensemble, ça fait Israël 541, vérifiez. 182, 345 et 16, ça fait 541. C'est-à-dire pour que Israël apparaisse, il faut qu'il y ait Yaakov, Moshe et David. Oui, là je pense que vous avez la réponse à votre question de façon très, très claire. Oui, c'est vrai dans le principe, depuis Abraham, il faut Jacob. C'est vrai pour le peuple de Jacob, dès Moïse, mais c'est réalisé avec David. J'aurais, si vous voulez, très rapidement une petite parenthèse à ce sujet. Il est bien évident que nous touchons là le fond du problème de la sociologie juive contemporaine à partir de l'émancipation. Jusqu'à l'émancipation, ces trois dimensions d'identité sont unifiées. On est juif à la fois par Jacob, par Moïse et par David. Et en hébreu, ça se dit « Am Israël, Torah Israël, Eret Israël ». C'était les trois choses à la fois. À partir de l'émancipation, ces trois dimensions éclatent, se diasporent, si j'ose dire. Et vous avez des institutions et des individus qui sont juifs que par Jacob, le peuple, et que ça. Vous en avez d'autres qui ne sont juifs que par Moïse, la loi, et que ça. Et le peuple, on ne connaît pas, sauf quand il va au Talmud Torah. Mais s'il ne va pas au Talmud Torah, ce n'est pas le peuple juif. Et Israël, on ne connaît pas. Et puis, il y a d'autres qui ne sont juifs que par David. Le peuple, on ne connaît pas, s'il n'est pas en Eretz Israël. La Torah, on ne sait pas ce que c'est. Vous voyez ? C'est-à-dire, chacune de ces trois, vous ferez l'analyse par vous-même, par permutation circulaire, vous retrouverez toutes les institutions de la sociologie juive contemporaine. Et chacune de ces dimensions isolées se défigure. Et c'est plus Israël. Pour le dire dans les termes du Ben Ishraï, un Jacob qui n'a pas de Moïse et qui n'a pas de David, c'est pas Israël. Un Moïse qui n'a pas de Jacob et qui n'a pas de David, c'est pas Israël, ça peut fonder n'importe quelle religion, et l'histoire l'a montré. Et un David qui n'a pas de Moïse et qui n'a pas de Jacob, c'est pas non plus Israël, ça peut faire n'importe quel cananéen de l'histoire. Je pense que c'est clair. Et il faut bien comprendre cette unification, cet effort d'unité de ces trois dimensions pour comprendre l'effort d'engendrement de l'identité d'Israël. Et voyez donc pourquoi l'étape David est si importante. Quelle ?
Il y a une solution à ce problème.
Lequel ?